Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Coetchea de l'équipe Podcastine.
Aujourd'hui, Podcastine s'intéresse aux solutions de télémédecine. Leur promesse est simple, désengorger les services d'urgence des hôpitaux français. L'article est titré « Télémédecine, derrière Sauve Life, le business contestable d'un médecin de l'APHP ». Il a été publié le 1er octobre sur Mediapart et Stéphanie Fontaine, vous en êtes l'autrice. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous nous accueillez aujourd'hui dans les locaux de votre collectif Extramuros. Vous travaillez pour Mediapart, mais aussi pour la presse hebdo, le Canard enchaîné, l'Obs, l'Express et aussi la presse automobile. Les plaisirs sont variés. Pour cet article, vous êtes devenu spécialiste des UMT. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme ?
Alors UMT, c'est pour Unité Mobile de Télémédecine. Donc le principe, c'est que faute de médecin, faute d'accès à un médecin généraliste, parce qu'il est soit parti à la retraite, soit parce qu'il est parti en vacances tout simplement, ou parce que les malades ne peuvent pas accéder aux urgences puisqu'elles sont encombrées, donc normalement, enfin, il arrive de plus en plus souvent que ces accès soient filtrés, eh bien ce malade va appeler le 15, c'est-à-dire le SAMU, et va tomber sur un médecin régulateur. Et en fonction de son état de santé, ce médecin régulateur va éventuellement déclencher cette UMT, qui consiste à en fait lui envoyer un infirmier ou une infirmière doté d'une mallette de télémédecine qui va lui permettre, le cas échéant, c'est pas obligatoire, c'est pas systématique, mais le cas échéant, qui va lui permettre de faire une téléconsultation avec un médecin libéral, c'est-à-dire via une visioconférence, donc à distance.
Ces UMT, ces unités, est-ce qu'il y en a beaucoup en France et notamment dans le Sud-Ouest ?
On ne peut pas vraiment dire qu'il y en a beaucoup puisque c'est assez récent ce déploiement. En fait, François Braun, juste avant de devenir ministre de la Santé, avait eu pour mission de faire des recommandations pour améliorer faire en sorte qu'il n'y ait plus d'engorgement aux urgences. Donc il a fait toute une série de recommandations et parmi ces recommandations, il y avait celle de favoriser et financer les UMT, les unités mobiles de télémédecine. Ce qu'on a vu, c'est que ça a donné une vraie impulsion à cette association Sauve Life qui avait déjà 7 UMT qui étaient déployées sur le territoire. Bon, comme on compte à peu près 100 départements, on ne peut pas vraiment dire que ce soit beaucoup, mais il y a eu une vraie impulsion donnée cet été puisqu'elles sont passées de 7 à 15 UMT déployées sur le territoire et sans doute que l'article a mis un coup d'arrêt à cet élan. Et dans le Sud-Ouest, il y en a 4 qui sont déployées. Il y en a une à Bordeaux, une à Guéret, une à Niort et une à Dax. Depuis cet été, même à Dax, c'était même avant qu'elle a été déployée.
Donc quasiment le tiers des UMT déployés en France sont en Nouvelle-Aquitaine.
C'est ça.
Stéphanie Fontaine, pour cette enquête, vous avez découvert ce que vous décrivez comme deux mondes bien différents, celui de la théorie et celui de la pratique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Et là, je parle en fait du financement public de ces UMT, puisque pour dépenser l'argent public, ça doit normalement répondre à certaines exigences, et notamment, par exemple, de mettre en concurrence des acteurs, donc de lancer des appels d'offres. Et il se trouve qu'il y a quelques exceptions pour permettre des contrats de gré à gré. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On nous explique que parce que ces expérimentations vont être courtes, c'est-à-dire 3 mois maximum à partir du plan, donc des recommandations faites par François Braun, et qu'ensuite le gouvernement a dit on va lancer les expérimentations de toutes ces recommandations, et ces expérimentations doivent durer théoriquement 3 mois au maximum. Et puis, ça répond surtout à une urgence. L'urgence, c'est que les urgences sont encombrées, les urgences dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont complètement assaillis. Voilà, en gros, comment on nous explique les choses pour avoir passé, finalement, des contrats, des conventions, de gré à gré, comme ça, sans mise en concurrence. Et il se trouve que quand nous faisons notre enquête, nous nous rendons compte, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il y a déjà des UMT qui sont déployées, et certaines sont même déployées depuis 2020, depuis la crise sanitaire, au plus fort de la crise sanitaire Covid. Voilà.
Ça représente quel budget, tout ça ?
Bah, en fait, on a calculé que l'administration, alors que ce soit via les ARS régionales ou via les CHU directement, avait dépensé 2 millions d'euros sans appel à concurrence pour Sauve Life.
En tant que lecteur, auditeur, on n'a aucun point de comparaison. Est-ce que c'est coûteux comme solution ?
Alors c'est ça aussi qui nous a intéressés. C'est un peu compliqué puisque on parle quand même de médecine et qualitativement, indéniablement, la solution des UMT est excellente pour les personnes qui sont concernées. On comprend bien que de faire venir des personnes âgées aux urgences qui vont attendre pendant des heures sur des brancards, donc ça va être une perte de mobilité, elles vont pouvoir être désorientées. Donc c'est vraiment une perte, je dirais, de chance pour elles, particulièrement ces personnes qui sont fragiles. Donc on comprend bien que de leur renvoyer une infirmière à domicile plutôt que de les envoyer aux urgences des hôpitaux qui sont totalement encombrés, ça peut être très qualitatif. Donc c'est quand même très compliqué de parler de coûts. Mais il y a quand même des points de comparaison, c'est tout simplement les visites d'un médecin. Or, la visite d'un médecin, ça varie en fait beaucoup selon les conditions. C'est très compliqué d'ailleurs. On a mis du temps d'ailleurs à savoir jusqu'à combien ça pouvait aller. Mais le déplacement d'un médecin à domicile, ça peut varier de 35 euros à peu près 120 euros. Or, l'UMT Sauve Life, on a calculé, puisque en fait elles sont... Il y a très peu d'interventions, en fait. Les SAMU n'y pensent pas forcément. C'est très compliqué, la téléconsultation. On ne peut pas faire de téléconsultation pour n'importe quelle pathologie. Donc, à un moment donné, il faut que le médecin vienne ausculter le patient. Donc, à partir de ces conditions, c'est très compliqué, en fait, de lancer ces UMT. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'interventions. Et comme elles sont payées au minimum... enfin. Sauve Life est payé forfaitairement par UMT, hein, 20 000 euros, au minimum 20 000 euros par mois. On a calculé que plus la téléconsultation du médecin, la consultation par Sauve Life revenait à 180 euros la consultation, versus 120 euros au maximum par un médecin libéral.
Dans votre article, vous mentionnez une initiative qui a eu lieu en Dordogne, une initiative qui a l'air moins coûteuse. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
En fait, c'est la seule UMT qui a été lancée, qui est la seule UMT développée qui est 100% publique. Donc, c'est le SAMU qui est rattaché au CHU de Périgueux qui a développé cette solution 100% publique. Donc, ils l'ont fait vraiment avec les moyens du bord, en interne, avec parce que finalement, pour leur mallette de télémédecine, eux, ils ont finalement déjà, le SAMU a déjà quasiment tous les outils possibles. Donc, il n'a pas besoin d'en acheter une à un prestataire extérieur. Donc, quelque part, il y a une réduction des coûts du fait que ce sont des équipes internes et des moyens internes qui sont mobilisés. Et là, en l'occurrence, l'ARS nous avait dit qu'elle finançait à hauteur de 6 000 euros, ce qui a été corroboré par le docteur Laurando, qui est responsable là-bas, qui nous a dit que ça avait, un coût de bien moindre que 10 000 euros par mois.
10 000 euros, c'est donc bien moins que les 20 000 euros nécessaires pour chaque UMT de Sauve Life, c'est ça ?
Oui, tout à fait, puisque chaque UMT de Sauve Life, c'est au minimum 20 000 euros, ça peut même monter jusqu'à 25 000 euros. Et là, c'est même pas 10 000 euros, c'est moins de 10 000 euros. Et vraisemblablement, selon l'ARS, c'est à peu près 6 000 euros.
Derrière Sauve Life, il y a un homme, il s'appelle Lionel Lameau. Qui est-il ?
Donc, c'est un médecin hospitalo-universitaire, un urgentiste qui travaille à l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. Et donc, il travaille à Necker, l'hôpital Necker, au SAMU de Paris. Et il est président, effectivement, de l'association Sauve Life.
Il l'a créée quand ?
Il l'a créée il y a déjà quelques années, mais en fait, Sauve Life a commencé à se faire connaître surtout à partir de 2018 et le lancement en fait d'une application téléphonique pour géolocaliser des citoyens sauveteurs, c'est-à-dire des citoyens qui s'engageaient à dispenser les premiers soins en cas d'arrêt cardiaque, un arrêt subi dans la rue, voilà. Et donc ça permet au SAMU en fait, voilà, il y a quelqu'un dans la rue qui s'écroule, il y a quelqu'un qui appelle le 15 comprend qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, va géolocaliser ces citoyens sauveteurs et les envoyer avant même que les urgences arrivent, les pompiers, les SAMU, parce que en moyenne c'est 13 minutes qu'il faut pour leur arriver, et 13 minutes ça veut dire que c'est trop tard pour aller aider quelqu'un en arrêt cardiaque.
Pour en revenir aux unités, ces UMT, donc le cœur de l'activité de Sauve Life, comment est structuré justement le financement de Sauve Life ?
Je me permets juste de rebondir. C'est pas le cœur de métier, justement, de Sauve Life. Enfin, ça lui rapporte finalement pas mal d'argent dans son budget. On s'en est rendu compte. Mais finalement, elle s'était vraiment lancée sur cette application arrêt cardiaque. Donc, Sauve Life, son cœur de métier, normalement, enfin, en tout cas, historiquement, c'est plutôt sur le traitement des arrêts cardiaques. Bon, toujours est-il que sur l'UMT, surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une société 100% commerciale, pour le coup, qui est, en fait, cachée derrière, si je puis dire, qui est une filiale, désormais, de Sauve Life, puisque Sauve Life a fini par rentrer au capital de cette société privée, qui s'appelle SMM, pour service médical mobile. Il y a aussi éventuellement la possibilité de l'appeler de manière anglaise, mais peu importe, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, à part en Île-de-France, toutes les conventions qui ont été signées l'ont été par les ARS, hein, je parle, donc par l'administration, l'ont été avec en fait cette société privée et non pas par Sauve Life, qui est pourtant toujours mise en avant dans les communications officielles et dans les reportages des journalistes.
Vous parlez également de donateurs. Pourquoi ?
Alors, bon, Sauve Life, on a compris, les UMT Sauve Life, même si en fait c'est une société privée qui se cache derrière, sont financés par de l'argent public, par les administrations. Mais sur son application téléphonique, il n'y a a priori que pas ou peu de subventions publiques, et donc cette application téléphonique est financée principalement par des dons. Donc par exemple, nous, enfin, pareil, c'est des comptes qui ne sont pas publiés, les comptes ne sont pas publiés de Sauve Life, donc on n'a que du déclaratif de leurs responsables, mais selon donc le docteur Lameau, le budget de 2021 de Sauve Life était à peu près d'1 million d'euros. Là-dessus, il y a quand même une partie du financement public pour ces UMT. Mais on a calculé que ça la correspondait pour, si on enlevait donc justement le financement de ces UMT, cela voulait dire que Sauve Life touchait plus de 350 000 euros de dons.
I'm
On a mentionné le nouveau ministre de la Santé. Dans votre enquête, vous citez d'autres responsables de santé qui gravitent autour de Save Life et ça vous a interrogé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce étonnant ?
Déjà, le plan de François Braun cite nommément Save Life en disant que c'est un exemple à suivre et qu'il faut favoriser et financer ces UMT tels que Save Life donc, en a déjà déployé. Et il cite même SMM. Donc ça interroge, bien sûr, on se demande, donc on lui a d'ailleurs posé la question, depuis quand il connaissait l'existence de la société de son ami, puisque je rappelle que François Braun est quand même lui-même urgentiste, certes pas à la PHP, mais en fait c'est un petit milieu, ils se connaissent bien, et François Braun, qui a été donc un patron du grand syndicat, on va dire, des urgentistes, a beaucoup soutenu, par exemple, le développement de l'application Save Life. Il y avait une volonté en 2017, pour le lancement en 2018 de Save Life en tant qu'application téléphonique, il y avait une vraie volonté des SAMU d'avoir leur propre application, parce qu'en fait, les pompiers avaient justement adopté une autre application qui était l'application historique qui proposait ce genre de choses. Et plutôt que de prendre la même, parce que les pompiers l'avaient adoptée, il fallait développer leur propre solution. Et François Braun, donc, connaît bien Lionel Lameau, qui s'est emparé de ce projet-là.
Il y a un autre homme qui gravite autour de Save Life et qui siège même au conseil d'administration. Qui est-il ?
Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que parmi les donateurs de Save Life, on s'est rendu compte donc, qu'il y avait des fondations, notamment la fondation Galerie Lafayette, la fondation CNP Assurance. Et il y avait la fondation La France s'engage, qui est la fondation présidée par l'ancien chef d'État François Hollande. Et le numéro 2 de cette fondation, c'est Martin Hirsch. Or, il était le directeur général de la PHP jusqu'à l'été dernier, c'est-à-dire qu'il était à ce titre le patron de Lionel Lameau. Or, Save Life a gagné un concours, c'est un concours organisé par La France s'engage, et Save Life a fait partie des lauréats de ce concours et a eu même la plus grosse dotation, qui est de 300 000 euros sur 3 ans, à la toute fin 2021, donc au moment où Martin Hirsch était toujours directeur général de la PHP.
Pourquoi c'est embêtant ?
Ça interroge tout simplement. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas à proprement parler d'argent public, mais forcément, on se demande jusqu'à quel point il n'y a pas des connivences qui se font et de l'argent qui est quand même attribué alors que les gens se connaissent. Donc, bien sûr, on a interrogé Martin Hirsch qui bien évidemment, a riposté et a dit qu'il n'avait absolument pas œuvré pour que Save Life remporte ce prix. Mais de fait, quand on regarde le règlement de ce concours, c'est quand même bien le conseil d'administration, à la fin, qui sélectionne les lauréats.
Merci Stéphanie Fontaine. Votre article « Télémédecine derrière Save Life, le business contestable d'un médecin de l'APHP » est à retrouver sur mediapart.fr.
Merci Myrène Garaïco-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.